Écoutez bien, voici l'histoire de l'établi de l'éducation artistique et culturelle. L'établi dans un atelier, c'est une table sur laquelle on dispose, où on fixe, la pièce à travailler. L'établi de l'éducation artistique et culturelle, c'est une série de kits mis à disposition de toutes et tous, dont l'objectif est de se saisir facilement des outils qui permettent à toutes et tous une rencontre, une pratique et une connaissance des arts et de la culture. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Chaque kit est composé d'un mode d'emploi sous forme de podcast à écouter, en fermant les yeux, de ressources, d'un outil pratique à destination des enseignants, des partenaires artistiques et culturels. Les kits ne seront pas des pièces terminées, ils sont des suggestions. Ils ont vocation à s'enrichir de vos contributions. Piochez-y, baladez-vous, arpentez et laissez-vous guider par notre mascotte, Kit. L'établi de l'EAC, c'est également un lieu de formation et de recherche, l'INSEAC. Un lieu physique et à distance dans lequel vous pourrez vous former, produire des ressources et contribuer au Living Lab de l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle pour atteindre ensemble le 100% EAC.
On regarde certains Avignonnais et à ce vu, vous comprenez, à 23 années de distance, comme on dit, oh comme il était beau le petit il y a 20 ans. Ben oui, il a grandi.
Le prix de l'audace artistique et culturelle fête ses 10 ans. C'est ainsi que Jean Villard parlait des âges des festivals.
Comme tout être humain, nous sommes tous très beaux, tous charmants pour nos pères et mères, quand on a 2 ou 3 ans, quand on a 6 mois, 4 ans, 5 ans, puis les problèmes au moment de la puberté, ça se pose. Et c'est pas le père ou la mère qui les pose, c'est toujours celui qui vient après. Bon. Alors, il y a peut-être ce rapport, vous comprenez, avec ceux qui, jadis, bon, ben oui, moi je sais pas, c'est pas, comme l'ont dit aussi un journaliste, le goût de vouloir immédiatement placer le flambeau, donc comme je ne sais plus, le nouvel observateur qui dit que le flambeau est tellement brûlant que j'ai envie de le passer. Ben, moi je trouve pas qu'il soit brûlant, j'ai jamais vu qu'il était brûlant, mais il est vrai qu'ayant un certain âge, et étant très attaché à cette ville, est-ce que nous y avons fait déjà, bien ou mal? Je souhaite qu'il y ait eu au cours de toutes ces années des gens qui soient venus travailler à Avignon, je dis, là, les acteurs, les chanteurs ou les metteurs en scène ou tout autre, et que Avignon puisse se perpétuer. Mais se perpétuer non pas en ressemblant aux images du passé, mais se perpétuer avec les nouvelles fonctions, les nouveaux auteurs, la nouvelle façon de mettre en scène, politique ou pas. Et je crois que j'ai raison.
Le prix de l'audace artistique et culturelle Enjeu et perspective d'un prix exemplaire en éducation artistique et culturelle.
L'audace,
c'est extrêmement simple.
Tout le monde est installé, vous m'entendez bien? Vous êtes exactement le public qui convient.
Lundi 30 mai avait lieu la remise du prix de l'audace organisé par la Fondation Culture et Diversité. C'est l'Institut de France qui avait été choisi pour accueillir les lauréats de cette 10e édition, présidée par Monsieur le Président de la République, François Hollande.
C'est l'idée que j'avais eue avec Marc de la Charrière, faire en sorte que des partenaires privés, en l'occurrence une fondation, puissent accompagner les efforts des personnels de l'éducation nationale pour diffuser la culture et surtout donner aux enfants, aux élèves, aux collégiens, aux lycéens, l'envie de prendre leur part dans la création culturelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé, comme vous l'avez rappelé, la Fondation Culture et Diversité en 2006.
Marc Ladrette de la Cherrière, président de la Fondation Culture et Diversité.
Il y a maintenant 15 ans, dont la mission est justement de favoriser l'accès aux arts et à la culture. Il y a le théâtre, il y a la danse, il y a les musiques classiques, il y a le patrimoine, et je pense que nous avons aidé les recteurs et les DRAC à faire rentrer un peu plus dans les écoles, les collèges et les lycées, ce genre de création artistique. Alors, 10 ans.
Xavier Darcos, chancelier de l'Institut de France.
C'est un bel âge, 10 ans. C'est l'âge du prix de l'audace artistique et culturelle
qui avait été fondée en 2012 par la Fondation Culture Université dont s'occupe Elona de la Chapière.
Et il y avait cette notion de c'est quoi l'exemplarité en fait. Alors nous, on venait poser l'audace parce qu'il fallait que politiquement et d'un point de vue de communication, on puisse aller plus loin que l'exemplarité, parce que je voulais projeter aussi toujours plus loin. Vous voyez que le prix soit un espèce de précurseur de ce que doit être l'éducation culturelle et artistique. Mais il y avait ça, c'est quoi un projet d'éducation culturelle et artistique exemplaire et comment est-ce qu'on fait diffuser cette exemplarité à la fois au niveau des professionnels dans les rectorats et les DRAC, au ministère et ensuite porté par la parole politique.
L'excellence ne va pas faire peur.
Manuel Brosset, chef de la mission d'éducation artistique et culturelle au ministère de l'Éducation nationale.
L'excellence qu'on pourrait qualifier d'élitiste, à mon sens, elle doit se positionner comme étant un vecteur de transmission de qualité, qualité efficiente pour l'ensemble de ceux et celles qui doivent pouvoir en bénéficier.
Dès le départ, hein, le prix a vraiment été imaginé, construit, réfléchi à l'initiative de la Fondation, mais avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale.
Il y a effectivement cet enjeu à la fois éducatif, donc c'était normal qu'il y ait cette question d'éducation nationale, cet enjeu d'accès à la culture dans un premier temps de participation et de formation pratique artistique et culturelle, donc c'était aussi un enjeu de politique publique culturelle.
Isabelle Jacot-Marchand, chef de bureau du temps de la vie au ministère de la Culture.
Mais j'allais dire rapprochement des deux parce que évidemment il y avait ce dénominateur commun incontournable pour toute une génération, toute une classe d'âge qui est celui de l'école. Le lieu de l'école, c'est quand même un lieu, c'est la condition nécessaire mais non suffisante. Mais en tout cas, c'est la condition nécessaire. Si.
Jusqu'à présent, les prix sont donnés dans des collèges pour des petits ou des plus grands.
Marc Ladrette de la Charrière.
Dans des collèges ou dans un lycée ou dans des départements différents ou dans des départements professionnels différents, l'agriculture ou les collèges ou lycées professionnels.
L'audace,
c'est l'envie de faire quelque chose, la passion de faire, l'envie et la passion.
L'audace.
C'est clair que dans l'enseignement agricole, depuis 30 ans, on a été un petit peu les éclaireurs, je dis ça par rapport à l'éducation nationale, en tout cas les précurseurs, de cet objectif de faire rencontrer les artistes et les élèves, faire rentrer les artistes dans les établissements scolaires et proposer une découverte des milieux artistiques par la pratique, par le projet.
Qu'est-ce qu'est l'EAC? Quels sont nos objectifs? Et comment est-ce qu'on veut implémenter des projets d'éducation culturelle et artistique sur le territoire?
L'éducation artistique et culturelle, c'est de pouvoir avoir accès dès son plus jeune âge à la pratique artistique, d'avoir accès à des grandes œuvres culturelles, de pouvoir côtoyer le beau, mais de pouvoir aussi apprendre à faire avec les artistes. Et ce, quel que soit le territoire d'où on vient, quel que soit l'établissement qu'on fréquente, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre.
Montrer à quel point l'expression artistique et tout ce qui tourne autour de l'expression artistique.
Christophe Pinet, chargé de mission culture à la DRAF Grand Est.
Peut-être riche en humanité et en développement de la relation que l'humanité peut avoir avec elle-même, mais aussi avec ce qui l'entoure. Alors on parle de la nature, on parle de plein de choses, hein, le reste du monde. Et les outils que ça permet, j'oublie jamais qu'il y a l'aspect sensible, c'est-à-dire qu'on travaille sur quelque chose de sensible qui dit, pratique artistique, qui dit forcément sensible, approche sensible, regard sur les choses.
Ça apprend de la culture, alors que nous sommes en lycée agricole, on est beaucoup focalisé sur l'agriculture et ça nous apprend ce qui est autour de nous en fait.
Pour moi, c'est quand on apprend à utiliser des outils d'art et à utiliser les choses qu'on ne pensait pas utiliser pour faire de l'art.
Ce truc qui fait que les gens, le matin, se disent « Tiens, je vais faire ce truc-là, qui n'est pas dans mon travail. » Parce que c'est quelque chose, en plus du boulot d'enseignant, hein, c'est souvent quand même, ça nécessite une implication qui va un peu plus loin que simplement son boulot.
Eh ben, c'est tout ce qui va être en mise en œuvre pour justement changer la vie de nos élèves. Voilà, tous les projets.
c'est l'éveil à la culture, c'est l'éveil au monde, l'éveil à l'art.
C'est permettre aux élèves d'avoir un rapport complètement décomplexé à l'art, d'aller dans des lieux culturels, de rencontrer des artistes, de pratiquer aussi et d'avoir des connaissances dans les domaines de la culture et de la connaissance.
C'est quelque chose. Et on cherche en fait à faire en sorte que il n'ait plus peur d'aller vers l'autre, il n'ait plus peur d'aller vers le monde et il n'ait plus peur d'aller vers eux-mêmes. Et c'est en allant vers les autres et vers le monde et je dirais l'autre et les autres au sens global du terme et dans toutes ces possibilités d'action que on aura le plus de chances possible de construire quelqu'un qui s'intéressera à lui-même. Parce qu'on sait très bien qu'un jeune qui s'intéresse à lui-même, c'est quelqu'un qui va prendre soin de lui-même. Et du coup, c'est un professionnel qui, derrière, prendra soin de lui-même et fera attention à lui et aux autres.
Tout ce qui est autour de l'art, donc toute forme d'art, le théâtre, le cinéma, le dessin, la peinture, tout. Et culturel, c'est pour notre culture à nous, tout simplement.
Et puis se diriger... Vers des nouvelles visions du monde qui les entoure, de choses qui peuvent être très triviales de leur quotidien, mais de savoir les regarder aussi de manière différente suite à ces rencontres avec des artistes et ces expressions plastiques.
C'est une façon de présenter autrement la culture dans un établissement scolaire, donc de voir d'une autre façon, de faire d'autres choses par rapport... au système scolaire qui est présent en cours normalement.
Il y a un volet également pratique. Je crois que c'est important que nos élèves connaissent les œuvres, connaissent les artistes, connaissent les structures, mais c'est aussi important qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils se rendent compte de l'exigence qu'il y a dans quel que soit le champ artistique abordé.
L'œuvre d'art, l'artiste...
Manuel Brosset.
Il nous enseigne. Lui aussi. Et donc effectivement, quand on parle d'éducation à l'art, on voit très bien l'approche, en quoi elle retourne. L'éducation par l'art, c'est la possibilité pour chacune de nos élèves de vivre la rencontre. La rencontre, c'est la rencontre avec l'œuvre, la rencontre avec l'artiste, la rencontre avec le lieu. Et donc c'est l'art, le lieu, l'artiste qui va venir vous enseigner quelque chose. À partir de là, on trouve tous les procédés. Il faut pouvoir trouver tous les procédés possibles.
L'audace.
Toucher à tout, tous les sujets, ce qui peut être très bien, par exemple, des œuvres d'art, que des cultures. Nous, en Normandie, on a beaucoup de cultures traditionnelles. Et pour moi, c'est ça l'audace, c'est de pouvoir expliquer et comprendre toutes ces choses-là.
L'audace.
Ça, alors, le rôle des DAC.
Marie Delouze. Déléguée académique d'Aix-Marseille à l'éducation artistique et à l'action culturelle.
C'est de sélectionner des dossiers pour ensuite les transmettre au niveau national. Puisqu'on devait sélectionner un dossier par niveau. Donc un dossier pour des écoles, un dossier pour le niveau collège et un dossier pour le niveau lycée. Donc notre rôle, il était d'une part de lancer un appel à candidature auprès des écoles, collèges et lycées qui voulaient participer à ce prix, et d'autre part ensuite de faire une expertise de ces candidatures avec nos collègues de la DRAC et de la DRAF aussi, hein, qui s'occupe des lycées agricoles, qui fait aussi partie du prix, pour pouvoir sélectionner ensemble les trois dossiers que nous allions retenir au niveau académique et ensuite que nous allions transmettre au niveau national pour la deuxième phase de sélection.
Eh bien, j'imagine que c'est le rectorat de l'époque qui nous avait envoyé le dossier de candidature, comme il est envoyé à tous les établissements. Et puis, on nous avait dit, est-ce que vous voulez participer ou pas. Voilà. Donc, j'ai déjà pris connaissance quand j'étais enseignant et quand j'étais moi-même porteur de projet. Donc on l'a rempli et puis on a eu la chance d'être finaliste.
Après, nous, on avait des critères internes à notre académie, qui étaient notamment le critère géographique. On a souhaité mettre en avant des projets qui soient issus de départements différents.
Ce qui est sûr, c'est que...
Eleanor de la Charrière.
Ça a été un vrai travail de se mettre d'accord au départ sur ces critères. Ce n'était pas si simple que ça. pour les uns et les autres de définir qu'est-ce que c'était qu'un projet de AC exemplaire. Ces évolutions des critères, ce sont bien le reflet de l'évolution d'une vision de nos deux ministères partenaires. Sur la partie, j'allais dire, maïeutique, mécanique du prix, oui, j'ai vu une évolution extrêmement forte sur la capacité des rectorats et des DRAC à travailler ensemble et à faire les dossiers, hein, de façon très très claire.
L'audace.
On va savoir un peu de charisme, avoir, comment expliquer ça, du courage de se montrer volontaire. Enfin, pour moi, c'est ça.
L'audace.
Parce que ça, par contre, de voir les enseignants qui se démènent, les artistes incroyables, les gamins qui vont à l'Élysée, qui vont à l'Assemblée nationale, les discours, enfin, ça, c'était vachement bien. Et ça, on le voit sur les 10 ans, quoi, la fierté qu'il y a eu d'être le lauréat ou finaliste du prix. Voilà, donc ça, on sait que ça a porté des acteurs de terrain pour se dire, ah bah ouais, en plus, on va postuler au prix, etc. Et comment est-ce qu'on a fait travail, comment est-ce qu'on a participé à faire travailler ensemble, en déconcentré et en centrale, les ministères?
Le prix de l'audace artistique et culturelle, en fait, c'est une vraie expérience esthétique.
Damien Malinas, maître de conférences et coordinateur de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle.
Et une expérience de communauté républicaine autour de la jeunesse. La manière dont se pose cette question de communauté républicaine et d'expérience esthétique passe par cette question de la prise de parole. L'économiste Albert Hochman explique dans son livre « Exit, Voice and Loyalty » comment on réagit au conflit lorsqu'il s'impose à nous. On peut faire défection, c'est l'exit, c'est abandonner la relation. L'exercice de l'esprit critique fait partie de la continuité de notre fonctionnement collectif. Il passe par l'écoute, l'expérience des sentiments et la prise de parole. Et c'est ce que nous avons vu les jurys le jour des 10 ans du prix de l'audace. En fait, ce jour-là, nous sommes 5 jurys à être venus à l'Institut de France pour cette remise de prix de la 10e édition du prix de l'audace artistique et culturelle. Je suis plutôt rassuré, je connais 4 des jurys, on s'est vu 3 semaines auparavant et je me sens plus à l'aise. Après, je me sens un peu plus à l'aise et je vais pouvoir faire quelques petites blagues. J'arrête pas de reprocher aux gens de faire des petites blagues, mais je crois qu'on reproche beaucoup aux gens ce qu'on pratique soi-même. La dame à ma gauche, en fait, elle était au jury il y a 3 semaines et à vrai dire, on n'a pas beaucoup parlé la dernière fois. Je ne suis pas sûr d'être si chaleureux. La question de la prise de parole est compliquée. Quand on arrive dans un jury, on sent bien qu'il se connaît depuis des années et ce n'est pas facile de s'adresser aux personnes. Alors, le jour de ce jury, il y a 400 personnes dans cet amphithéâtre de l'Institut de France. Il y a une web radio Cas d'école, qui vient m'interviewer sur l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle que je représente. Et j'essaie de faire sourire le journaliste en lui assurant que, comme les timides, je ne parle pas, mais que quand je parle trop. Et là, c'est plutôt bien, c'est ma voisine qui sourit. Et y a quelque chose qui se passe bien, et on va écouter les élèves qui vont présenter leur projet. Ce sont des élèves qui vont prendre la parole en public devant 400-500 personnes. Moi, je suis très impressionné par eux. Et vraiment, on est épaté. Et en fait, on se rend compte avec cette dame qu'il y a quelque chose qui nous anime en commun. C'est qu'on est plutôt ému quand on les écoute, ces élèves.
Lors de la remise des prix de l'audace artistique et culturelle 2022, Monsieur le Président de la République, François Hollande a donné la parole aux élèves lauréats afin qu'ils témoignent de leur expérience.
Bonjour, en 2014, nous avions 3 ans. Nous entrions en classe de petite section à l'école primaire de Perrat-Château.
Élève de l'école de Perrat-le-Château, lauréat 2022, du prix pour l'Académie de Limoges.
Nous découvrions l'école, la maternelle, nous y rencontrions nos camarades, les enseignants, mais aussi d'autres adultes qui allaient nous accompagner durant nos scolarités. Philippe, Tubilda et d'histoire nous amena cette année-là sur le chemin de la forêt. Adélaïde, du Centre international d'art et du paysage de l'île de Massilière, nous fit suivre d'autres chemins, ceux du parc de sculpture. Un artiste plasticien, Joël Thébault, nous a appris à réaliser des sculptures en bois.
Des artistes, il y en a depuis 30 ans au lycée en résidence.
Élève du lycée Gilbert Martin de Neubourg, lauréat 2022 du prix pour l'Académie de Normandie.
On ne peut pas tous les citer, mais nous tenons à remercier Charles Frégé, photographe, qui en 2014 est venu pour une résidence autour du vêtement du travail, projet récompensé. À partir de ce moment-là, d'autres partenaires ont été sollicités. Le lycée a davantage croisé les disciplines artistiques, a promu le travail réalisé dans d'autres lieux, ministères, rectorats, musées du monde. En 2015, Charles Frégé est revenu pour un projet encore plus audacieux, sur le vêtement d'apparat baroque en lin, culture phare de notre région, avec le designer textile Gwen Contentage.
Et bien, moi, pour parler du film qu'on a fait, une fois le film terminé, j'ai voulu le montrer à ma famille.
Élève de collège Montsouy d'Orgon, lauréat 2022 du prix pour l'Académie d'Aix-Marseille.
Alors, bien sûr, j'ai attendu que nous soyons tous réunis avec ma famille, qui est la plupart de ma famille. J'ai pris ma télé, je l'ai sortie dehors en plein air, j'ai mis des chaises autour de la télé, j'ai fait une séance de cinéma en plein air et j'ai réuni toute ma famille, ma grand-mère, mes tantes, mes cousins, mes cousines, il y en a beaucoup, une tête de personnes. Et je leur ai mis mon film, ils l'ont regardé. Et bon, c'est vrai, ça m'a fait bizarre parce qu'ils étaient en train de regarder un film sur moi.
Ces élèves, ils vont être ensuite remis, on va le dire comme ça, on va leur remettre un prix, et c'est François Hollande et qui leur donne ces prix. Il est brillant dans son allocution, et vraiment, il sait leur rendre hommage, il sait raconter une histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous. Et là, ce qui nous a impressionné quand on a vu ces élèves, c'est qu'ils savent raconter une histoire.
Et là, c'était une école, des écoles rurales qui se sont mobilisées, et on l'a vu avec ce projet de Valérie, et qui ont pu découvrir là des traditions, des modes de fabrication, et avec leurs enseignants aussi un éveil à la nature. Et si vous n'avez pas, pour ceux qui ne sont pas de cette école, les parents ou les enseignants, déjà fait le voyage vers Massilière, allez-y, car vous pourrez d'abord visiter leur création et découvrir ce lac magnifique au cœur de la France. Ensuite, il y a les SECPA de la région Provence-Côte d'Azur, et je suis allé récemment encore dans une SECPA pour présenter ce qu'était la République, faire comprendre ce que sont nos valeurs, nos principes, nos institutions. Et là, je vois qu'un film, des films ont pu être réalisés par des SECPA avec des élèves de collège. C'est extrêmement stimulant parce que ce témoignage qui a été livré d'un jeune qui fait découvrir à sa famille, finalement, non pas simplement un film sur sa vie, mais un film qu'il a contribué à fabriquer. Car c'est ça, une création artistique, c'est de pouvoir être l'élément, un des éléments qui va bâtir, produire une œuvre qui est encore limitée, mais qui va peut-être donner envie de faire du cinéma. On voit d'ailleurs le mélange, et c'est ce que voulait Marc, le mélange entre toutes les pratiques, tous les arts. On a pu voir le cirque avec la batterie, on peut voir le cinéma avec le théâtre. On voit qu'il y a cet échange, ce mélange qui donne envie de découvrir. Et puis enfin, le Neubourg. Alors, il se trouve que mes parents habitaient une petite commune à côté du Neubourg, à quart d'envie de la campagne. Et je me souviens encore des marchés du Neubourg et combien il est important d'avoir un lycée agricole. Et c'est aussi ce qu'on disait avec Xavier Dacôte. Les lycées agricoles apportent peut-être ce que quelquefois les lycées d'enseignement général ou les lycées professionnels ne portent plus assez, c'est-à-dire des animations socioculturelles. Peut-être que ce serait une idée pour un ministre de mettre aussi des éléments d'animation socioculturelle, de création socioculturelle dans les établissements de toute nature. Et là, dans les lycées à l'école, il y a cette animation et qui a donné lieu, là encore, à une création tout à fait passionnante.
Et pendant que le président de la République parle, il y a un élève, parce qu'en fait, les élèves qui sont dans la salle, ce sont aussi des personnes qui sont venues soutenir leurs camarades. Ça, c'est aussi la question des compagnons et de la collégialité, être collègue, comme on dit dans certaines régions. Et un collègue d'un élève en SECPA dit « C'est bien, il n'a pas bégayé, ça ne se voit pas, il a été trop cool. » En fait, il ne parle pas de François Hollande, il parle de leur camarade qui, le temps d'un instant, a perdu son bégaiement. Alors, son bégaiement, il le fait, mais en fait, il a perdu son bégaiement pour dire une chose qui est assez incroyable, c'est que leur prof était le meilleur du monde, et selon son expression, ça, c'est non discutable.
Monsieur Guénon, qui, depuis la 6e, nous soutient et toujours avec nous dans tous nos projets, est le meilleur prof de France. C'est non discutable.
Et ça, c'est ce que fait l'éducation artistique et culturelle ce jour-là dans cet amphi de l'Institut de France pour le prix de l'audace artistique et culturelle pour ses 10 ans, avec des élèves qui ont le même âge, ils ont 10 ans comme ce prix, ben, ils se synchronisent, ils perdent un peu le temps de leur bégaiement pour mieux exprimer leurs sentiments.
L'audace, hein. L'audace.
L'audace. L'audace, c'est un mot en Chine, en chinois, on dit yongan. Ça, il faut le courage pour faire quelque chose. Il faut aller avancer sans avoir peur.
L'audace.
Nous allons modifier quelque peu la suite de nos prix.
Marc Latraite de La Charrière, président de la Fondation Culture et Diversité.
Et que nous allons innover l'année prochaine, car notre maître mot l'année prochaine sera le décloisonnement. Décloisonnement, ça veut dire quoi ? Comment l'éducation artistique et culturelle permet de mélanger et de mêler l'ensemble des partenaires. Par exemple, les disciplines, en mélangeant, par exemple, l'art et la science. Les populations, par exemple, en mélangeant les élèves et les personnes âgées. Les établissements aussi, en mélangeant, par exemple, les écoles, les collèges et les lycées.
Et donc, on a discuté avec... et donc là, on a fait des groupes de réflexion avec Emmanuel Etis, Manuel Brosset et Noël Corbin. Et je leur ai dit, en fait, vous avez envie qu'il soit où le petit drapeau qui montre la trajectoire, qui doit être votre objectif pour dans 10 ans?
On n'est pas uniquement dans la transmission pour l'éducation artistique, on est aussi dans cette volonté de faire en sorte que chacun se saisisse de la culture pour se construire.
Noël Corbin, délégué général à la démocratie culturelle du ministère de la Culture.
Et donc il y a cet amont, comment on construit les parcours, comment on forme nos intervenants. Et il y a surtout, et ce qui est très important pour nous, l'aval. Qu'est-ce qui se passe après? Quel impact l'éducation artistique et culturelle ont sur la vie individuelle, mais aussi sur la construction des liens sociaux
dans ce paysage national.
Manuel Brosset, chef de la mission d'éducation artistique et culturelle au ministère de l'Éducation nationale.
On trouve différentes entités. Et il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes très engagés, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'actions. Et à mon sens, le véritable challenge pour nous tous, membres de l'équipe de France de l'EAC institutionnel, c'est de travailler ensemble. Et il y a beaucoup d'initiatives formidables. Il faut fédérer, il faut unifier, il faut optimiser, il faut rendre visible. C'est du réalisme politique institutionnel à mon sens. C'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'il faut se heurter parfois aux logiques de périmètre ou de précaré légitime. Et donc il faut amener les gens à travailler plus encore ensemble. Et c'est en ce sens que le prix de l'audace artistique et culturelle, un prix comme aujourd'hui avec cette fondation, est tout à fait emblématique et à mon sens est exemplaire.
Alors c'est vrai que la question...
Emmanuel Etis, recteur de la région académique Bretagne, vice-président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.
tel que s'est les posé Éléonore Ladré de la Charrière, qui conduit depuis une dizaine d'années le prix de l'audace artistique et culturelle. C'était de se dire au fond comment au bout de 10 ans je renouvelle notre approche, surtout dans un contexte où le mot d'ordre a beaucoup évolué, avec l'idée d'être dans une approche du 100% éducation artistique et culturelle souhaitée en 2017 par le président de la République, qui a impulsé une autre manière de voir les politiques publiques, dans le sens où l'éducation artistique et culturelle touche tout le monde. Avant, on était dans un contexte où on avait des projets très thématisés, très colorés, très autour de, voilà, ça peut être la ferronnerie d'art, ça peut être la manière de construire un livre avec des images depuis un sujet écologique. Et bien ça, on est en train de le faire évoluer, et la demande et l'attente qu'il y a par rapport à cela, c'est de se dire au fond comment je peux à la fois avoir un mélange encore plus ample sur le plan disciplinaire, sur le plan des différents arts qui peuvent se croiser, et puis aussi, pourquoi pas, des différents âges, des différents publics qui peuvent se rencontrer autour de l'éducation artistique et culturelle. Par exemple, travailler sur un projet qui soit interniveau entre des élèves de primaire et des élèves, pourquoi pas, de terminale, en mélangeant des collégiens, des lycées professionnels, des lycées généraux. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le décloisonnement, et de se dire au fond, est-ce que si on amène les gens à travailler ensemble, c'est encore pousser plus loin la logique partenariale qui est sous-tendue par l'éducation artistique et culturelle.
C'était le podcast « Les 10 ans » du prix de l'audace artistique et culturelle, enjeux et perspectives d'un prix exemplaire en éducation artistique et culturelle. Prise de son et entretien, Ali Nazari et Michael Sauvage. Réalisation, Isaac. Remerciements à Monsieur le Président de la République, François Hollande. À Monsieur le Chancelier Xavier Darcos, à Monsieur le Président de la Fondation Culture et Diversité, Marc Ladrette de la Charrière, au recteur Académie de Bretagne, Emmanuel Etis, au chef de mission, Manuel Rosset, au délégué général, Noël Corban. Merci également à Madame Eleanor de la Charrière et toute l'équipe de la Fondation Culture et Diversité, aux délégués académiques, aux chargés de mission, ainsi qu'à tous les participants, artistes et structures culturelles, associations, sans oublier les professeurs et leurs écoliers, collégiens, lycéens. Direction scientifique, Emmanuel Etis. Introduction de Jean Villard.